10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Alors on ne dit plus de lui qu'il est essayiste, ancien conseiller d'un président géorgien. On ne dit même plus de lui qu'il est bobo, non, depuis qu'il a franchi le Rubicon politique. On dit de lui qu'il est sincère et rafraîchissant. Rafraîchissant, ça ne fait pas un programme, mais c'est ainsi que les socialistes qui lui ont cédé la tête de leur liste préfèrent qualifier ses premiers pas en campagne. Ils espéraient le dépassement de leur parti, ils s'inquiètent désormais de son effacement. Lui dit s'être engagé parce qu'il a conscience du tragique du moment, ce moment T où se joue la bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique et de la menace nationaliste. Sauf qu'il espérait être le déclencheur d'une large dynamique de rassemblement de la gauche et que jusqu'à présent, pas grand monde n'est venu. Alors, quelle Europe sociale et écologique défend-il ? Quelle est sa singularité ? Espère-t-il encore être l'artisan d'une grande réconciliation ? Quel est son pari personnel dans cette aventure ? Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes donc la tête de liste Place Publique Parti Socialiste et vous avez été rejoint par Pierre Larouturou de la Nouvelle Donne. Place Publique, c'est le mouvement que vous avez créé en novembre dernier. Nous allons parler avec vous évidemment de votre projet européen, de ce que vous allez défendre le 26 mai prochain devant les électeurs. Et puis on va également parler avec vous des solutions qu'on attend aujourd'hui à l'issue du grand débat et de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron doit parler demain soir ou en tout début de semaine, nous dit-on. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, bonjour. Qui est chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose, Raphaël Glucksmann, la première question.
Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Effectivement, le chef de l'État doit s'exprimer très, très prochainement, demain soir ou en tout début de semaine. Sur ses propositions à l'issue de cette grande séquence démocratique, le grand débat qu'il a initié, peut-être nous écoute-t-il ce matin, vous écoute-t-il ce matin, quelle serait la mesure urgente, prioritaire à vos yeux, que devrait annoncer le chef de l'État demain ou en début de semaine?
Je pense qu'il faut surtout qu'il ait conscience de la gravité du moment. C'est-à-dire qu'on vit une crise sociale depuis 6 mois qui est née de la déconnexion d'une mesure écologique et du souci de justice sociale. Et donc, sa réponse, ça doit être justement de reconnecter les deux.
Et de quelle façon?
Et ben, en lançant un grand plan d'investissement dans la transition écologique qui est en son cœur, la quête de justice sociale. Vous savez, aujourd'hui, il y a une tribune dans le journal du dimanche, signée par Nicolas Hulot, Laurent Berger et 14 autres responsables d'associations. Oui, mais c'est le cœur du projet pour la France. Vous savez, aujourd'hui, on entend le Premier ministre nous dire que finalement, ce qui s'exprime, c'est simplement un ras-le-bol fiscal général. Et on entend une musique qui vise à, en gros, confirmer le cap qui a été pris depuis le début du quinquennat.
Le sujet de la fiscalité n'est pas le sujet prioritaire.
Si, mais une fiscalité, ça se prend dans la question de la fiscalité, elle se prend dans un plan général. On doit à nouveau comprendre vers où on nous conduit. Et donc, oui, la mesure première qui devrait être prise, s'il avait le courage de changer de cap, justement, eh bien, ce serait de mettre fin à l'injustice fiscale de son quinquennat.
Et de quelle façon ?
Et donc, soit en rétablissant l'impôt sur la fortune, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus. Il faut comprendre que la révolte qui a lieu aujourd'hui en France, ce n'est pas une révolte contre les impôts en général, c'est une révolte contre le sentiment d'injustice fiscale.
Dans un sondage d'injustice ce matin fiscale. Dans le journal du dimanche, 82% des Français réclament une baisse générale de l'impôt sur le revenu.
Oui, mais une baisse générale de l'impôt sur le revenu, et ils ne réclament pas le maintien des cadeaux fiscaux faits aux plus riches des Français. Vous savez,
donc retour de l'ISF, pour vous, c'est la mesure prioritaire?
Une mesure, si jamais lui fait de l'ISF un symbole et qu'il aurait l'impression de trop se dédire, peut-être peut-il inventer une nouvelle tranche de fiscalité qui permette aux plus riches d'entre nous de contribuer plus et non pas moins à l'effort commun. Ce qui a mis le feu aux poudres. Vous savez, on savait que Emmanuel Macron avait été élu dans une France qui était profondément malade, divisée et fracturée. Et prendre comme première mesure une série de cadeaux pour ceux qui ont bénéficié de la mondialisation, ceux pour qui ça va bien, eh bien c'est jouer avec des allumettes sur un baril de poudre. Et donc il faut qu'il y ait un changement de cap. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend partout, c'est l'idée que les contributions au grand débat sont en fait des appels à confirmer une politique qui a précipité le pays dans la crise. Et donc, il faut avoir le courage, à mon avis, et je pense que s'il a conscience de la gravité du moment, il devrait trouver en lui ce courage, et bien justement de changer de cap.
Donc, ce n'est pas une baisse d'impôts pour tous, c'est une hausse d'impôts pour les plus aisés, les plus riches, et une baisse d'impôts pour les autres.
Et ça s'appelle la justice fiscale, et c'est ce que demandent les gens. Enfin, il n'y a pas une volonté comme ça de supprimer les impôts, parce que supprimer les impôts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer les services publics. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la fracture territoriale qui s'est exprimée dans le mouvement des Gilets jaunes, elle remonte bien sûr à beaucoup plus loin que simplement les 2 ans d'Emmanuel Macron, mais c'est le prix qui est payé par 40 ans d'abandon de la puissance publique. C'est l'idée que finalement, on ne peut plus façonner son territoire. Et ce qui serait important, c'est aujourd'hui de rappeler que oui, la puissance publique, oui, les services publics, peuvent façonner le territoire français, peuvent faire en sorte que eh bien, le cours du marché qui creuse les inégalités peut être détourné, corrigé par le fait qu'on a une république, ça s'appelle comme ça, et donc garantisse un accès de l'ensemble de la population aux mêmes services publics et à la société.
Alors on verra ce que le président de la République retient de tout ça. Le Premier ministre a également dit cette semaine que dans les enseignements à retenir du grand débat, il fallait faire progresser la démocratie délibérative. Vous, quelle proposition auriez-vous à ce sujet-là ? Est-ce qu'il faut plus de proportionnel, plus de référendum ? Enfin, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Il faut effectivement que les institutions de la Ve République soient changées. Vous savez, on a eu une crise sociale qui s'est transformée.
Mais soit changée, dans quel sens alors ?
Immédiatement, je vais y venir, immédiatement en crise de régime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le dissensus qui existe dans la société ne s'exprime plus dans les institutions. S'il ne s'exprime plus dans les institutions, il s'exprime dans la rue. Et donc, ce qu'il faut, c'est passer à une dose de proportionnel, passer à une forme de participation beaucoup plus grande des citoyens dans la vie politique. Et il faut aussi enfin appliquer cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui était un pacte girondin, vous vous souvenez ? Quand, pendant toute la campagne électorale, on nous a promis qu'on allait renforcer la démocratie locale, que c'était fini l'État jacobin où des technocrates décidaient pour l'ensemble d'une population. Eh bien, on a eu quoi après l'élection ? On a eu exactement l'inverse.
Et donc, il
on
faut
a eu
une
concentration
phase
des pouvoirs, on a eu une recentralisation
donc,
des décisions.
Une nouvelle phase de décentralisation.
Bien sûr, il faut ce pacte girondin. Il y a énormément de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron en étant convaincus qu'il allait mettre en place ce pacte girondin. Ce pacte girondin, ça veut dire plus d'autonomie et de démocratie locale où des maires partout en France. Moi, je veux dire, dans notre mouvement, Joe Spiegel, qui est le président de Place Publique, il a mis en place la démocratie de participation dans sa commune. Il faut donner plus de pouvoir, plus
aux
d'autonomie.
Aux régions et aux maires.
Bien sûr, bien sûr. Et il faut décentraliser la France. Et la démocratie locale, il faut la faire vivre. Et dans le même temps, eh bien, il faut donner plus aussi de démocratie à l'échelle européenne. C'est ça le pacte girondin qui avait été promis. C'est une manière de faire respirer la démocratie française. Or, aujourd'hui, on a quoi ? On a une concentration des pouvoirs à l'Élysée, le pouvoir exécutif qui domine complètement le pouvoir législatif. Et à l'Assemblée nationale, on a en gros une assemblée qui ne représente plus la variété de l'opinion française et une impossibilité de débattre. C'est pour ça qu'il faut impérativement.
À quelle dose proportionnelle ?
Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est un problème de gouvernance personnelle de la part d'Emmanuel Macron ou c'est un vrai problème d'institution et donc il faut éventuellement changer de république ?
Les deux, chers amis. Vous savez, depuis, on est la seule démocratie européenne dont les institutions ont été façonnées pour un homme, le général de Gaulle. Et depuis la disparition...
Mais qui a scié à beaucoup d'autres.
Depuis la disparition du général de Gaulle, à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive, on explique, mais il n'arrive pas à rentrer dans les habits. C'est une forme de frustration générale. À chaque fois, on nous dit « Ah, mais il n'arrive pas à prendre la mesure du poste, il n'arrive pas à prendre la mesure de la fonction. » Mais peut-être qu'on a un problème d'habits et pas simplement un problème de gens qui se rentrent ou pas dans ces habits. On a une république qui est beaucoup plus monarchique que les monarchies constitutionnelles qui nous entourent. Et donc, il va falloir poser la question, oui, de la Ve République. Je pense que Emmanuel Macron, en poussant à bout la logique jupitérienne, la logique de concentration des pouvoirs, la logique d'incarnation verticale du pouvoir, eh bien, il a fait entrer la Ve République dans une phase terminale. Et que donc, oui, il faut une assemblée citoyenne. C'est peut-être pas
l'urgence absolue. Vous partagez le combat de Jean-Luc Mélenchon pour une 6e République ?
C'est mais moi, je pense, j'ai pas le culte des noms, hein, probablement après 5, ça sera 6. Mais il faut effectivement changer nos institutions. Il faut qu'on ait une démocratie qui respire. Et il faut qu'on arrête aussi de considérer que les gens sont des enfants qui ont besoin d'un père. On n'a pas besoin d'un père de la nation. On a besoin d'une démocratie qui respire. On a besoin d'une démocratie qui fonctionne. On a besoin d'un dialogue social qui fonctionne. Vous savez, au début de la crise des Gilets jaunes, il y a eu une proposition qui a été mise sur la table par Laurent Berger. Et Jupiter, dans son palais, a déclaré « Mais moi, je n'ai pas été élu président pour discuter avec les syndicats. » Et c'est le syndrome, qui est bien sûr celui d'Emmanuel Macron, mais pas seulement d'Emmanuel Macron, le syndrome de cette présidence monarchique qui considère qu'en gros, une fois qu'on est élu, on peut décider de tout pendant 5 ans. C'est pas comme ça que vit une démocratie moderne. Et donc la promesse qui avait été faite, qui était de moderniser la démocratie française, il est temps qu'elle soit tenue, parce que sinon notre pays va exploser. C'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y ait une crise sociale, on ait l'impression que le régime tout entier va s'effondrer.
Nicolas Barré.
Parallèlement au grand débat, on l'évoquait, le mouvement des Gilets jaunes s'éternise de samedi en samedi. On en est au 22e samedi de mobilisation hier. Pour vous, est-ce que ces manifestations à répétition ont encore un sens ?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse politique et sociale à une crise sociale et politique. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ces réponses-là, tant qu'il n'y aura pas de réponse sur le pouvoir d'achat, tant qu'il n'y aura pas de réponse sur l'injustice fiscale, tant qu'il n'y aura pas de réponse sur les institutions, puisque la démocratie, c'est aussi une revendication essentielle de ce mouvement, eh bien, ça continuera.
Donc, tant qu'il n'y aura pas de réponse, vous soutiendrez ces manifestations de samedi en samedi ?
Moi, ce n'est pas mon rôle de soutenir des manifestations. Moi,
mon c'est un rôle... peu ce que vous dites, là.
Non, mais moi, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre comment on sort, justement, de cette confrontation. Oui. Comment on sort de la confrontation entre la rue et Jupiter. Eh bien, on sort de ça par une réponse politique. Politique.
Et donc, que là, Jupiter c'est pour ça... devrait apporter.
Très bien. Moi, je suis pas dans l'opposition pavlovienne. Si lundi ou mardi, eh bien, il propose un plan de sortie de crise par le haut, je serai le premier à dire... que c'est bien, parce que j'ai pas du tout envie que moi, mon pays s'enfonce dans cette confrontation permanente. Moi, j'ai envie qu'on arrive à nouveau avoir un projet collectif commun qui nous permette d'avancer. Donc, j'espère qu'il va le faire. Mais ce qui m'inquiète, c'est tout le bruit de fond entretenu notamment par son Premier ministre, qui est de dire, finalement, on va baisser les impôts et continuer notre politique en l'accentuant, c'est-à-dire diminuer les services publics, privatiser l'aéroport de Paris, privatiser la Française des Jeux et continuer, en fait, l'effacement progressif de la République.
Mais vous avez entendu ce que disent beaucoup de Gilets jaunes qui manifestaient encore hier, on l'entendait sur cette antenne tout à l'heure. Ils disent, de toute façon, on n'écoutera pas ce que répondra le président de la République.
Parce qu'ils sont sceptiques.
Ils sont plus que sceptiques, ils disent, on
quelques raisons. D'être sceptiques. Vous savez, moi, j'étais très contre, et je l'ai dit, le slogan « Macron démission », parce que je respecte les institutions et qu'on a un président qui a été élu pendant 5 ans. Moi, je ne partage pas sa politique. Je pense qu'il a fait preuve d'arrogance. Je pense que sa politique est profondément injuste. Mais il n'empêche, on a un président qui est là pour 5 ans, donc on va l'écouter quand il va parler. Et on espère, je pense que la majorité des Français espèrent, qu'il va y avoir un plan de sortie de crise qui soit à la hauteur du moment, à la hauteur des défis de l'époque, et qui surtout ne passe pas par pertes et profits, eh bien, l'impératif qui nous incombe à tous, qui est la transformation écologique. Parce que dans le même temps qu'il y avait les manifestations liées à l'injustice sociale et aux fractures territoriales des Gilets jaunes, il y avait aussi la mobilisation de la jeunesse française et de la jeunesse européenne dans son ensemble pour le climat. Et donc, l'enjeu...
On va en reparler.
On va reparler d'écologie dans une seconde. Pardon. Et de votre projet européen. Raphaël Glucksmann, tête de liste, place publique et Parti socialiste, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Raphaël Glucksmann, tête de liste, place publique, Parti socialiste, est l'invité de ce grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré.
Oui, Emmanuel Macron a annoncé en fin de semaine qu'il refusait d'ouvrir des négociations commerciales avec les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, parce que les États-Unis de Donald Trump refusent l'accord de Paris sur le climat. Donc c'est une position de principe qui est très forte. Simplement, la France sera probablement la seule parmi les 27 à défendre cette position. Est-ce que vous soutenez cette posture du président de la République ?
Si cette position se confirme, c'est-à-dire si les négociations ne sont pas quand même ouvertes, parce que ce n'est pas encore très clair à Bruxelles...
Alors, on ne décide pas de tout seul.
Il peut bloquer. Il peut bloquer complètement. Mais en tout cas, s'il va jusqu'au bout et qu'il bloque l'ouverture de ces négociations, oui, mais qu'il s'oppose de manière extrêmement claire et qu'il tient cette ligne, évidemment... que je le soutiens, et évidemment qu'on le soutiendra tous, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de rompre avec ces accords de libre-échange qui sont contraignants et qui nous empêchent de faire face au réchauffement climatique.
Mais est-ce que la France peut avoir raison contre tous les autres partenaires sur ce sujet-là ?
La France a raison dans ce cas-là, effectivement, d'empêcher qu'on se lie les mains et qu'on s'empêche de faire face au réchauffement climatique et à la disparition de la biodiversité. Vous savez, les accords comme le CETA avec le Canada ou le TAFTA avec les États-Unis, nous finalement, prive des moyens d'agir. Et donc, il est parfaitement logique qu'on sorte de cette religion du libre-échange. Vous savez, si on prend au sérieux la catastrophe, si on dit réellement, comme le dit le GIEC, qu'en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique, et que donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, on doit changer notre manière de procéder, notre manière de consommer, notre manière de produire, eh bien, il faut rompre avec ce train-train du libre-échangisme absolu, il faut rompre avec ces séries d'accords de libre-échange, il faut aussi rompre avec le dogme des 3% de déficit, il faut sortir les dépenses liées à la transformation écologique du calcul de ces déficits, et il faut mener une véritable politique d'exception écologique. Donc s'il va jusqu'au bout, évidemment, je le soutiens.
Mais justement, dans cette campagne européenne, Raphaël Glucksmann, vous défendez un projet écologique et social, et on retrouve un petit peu du projet de Nicolas Hulot, en tous les cas de ce qu'il avait tenté de faire lorsqu'il était au gouvernement. Il soutient votre liste dans cette campagne ?
Mais je ne vais pas faire parler les gens à leur place. Ce qui est
mais vous lui avez parlé ?
J'ai échangé évidemment avec Nicolas Hulot depuis sa démission. Vous savez, la démission de Nicolas Hulot, c'était un moment extrêmement important, y compris dans la formation de notre mouvement Place
Publique.
Mais aujourd'hui,
il publie une tribune dans le journal du dimanche avec Laurent Berger, mais pas encore à vos côtés, dans les meetings, sur les estrades.
Mais je pense que les gens peuvent participer d'un même mouvement sans désirer nécessairement s'investir directement sur la scène politique. Je pense que Nicolas Hulot, il a fait ce qu'il a pu et c'est un grand brûlé de la politique. Vous savez, quand il démissionne, il dit quelque chose d'extrêmement important, qui, s'il avait été écouté, eh bien, nous aurait sauvé de 6 mois de catastrophe sociale. Ce que dit Nicolas Hulot, c'est qu'il y a un problème de système et que la transformation écologique, eh bien, elle doit nous amener à repenser notre libre-échangisme et notre système capitaliste. Et donc, il faut une transformation d'ampleur. Et aujourd'hui encore, dans la tribune qu'il signe dans le journal du dimanche, c'est ce projet-là d'alliance entre la transformation écologique et la quête de justice sociale. C'est exactement le projet qu'on porte à l'échelle européenne. Mais je voudrais juste entrer dans le détail. Il y a une proposition, par exemple. Une proposition qui montre comment la transformation écologique et la quête de justice sociale peuvent fonctionner ensemble, doivent fonctionner ensemble. Il y a en France 7 millions de foyers qui vivent dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont mal isolés. Un grand plan de rénovation thermique des logements et des bâtiments, ça permettrait quoi ? Ça permettrait à chaque ménage français qui est concerné d'économiser entre 500 et 1000 euros par an en dépenses de chauffage. Et ça permettrait d'éviter 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et ça permettrait en plus d'économiser jusqu'à 750 millions d'euros en dépenses de santé. La Fondation Abbé Pierre a fait une étude qui montre que 1 euro investi dans la rénovation thermique des bâtiments et des logements, ça permet d'économiser 42 centimes en dépenses de santé. Donc là, on a un projet, un grand projet qu'on peut mener à l'échelle européenne.
Ça, alors enfin, voilà, c'est une proposition française ou c'est une proposition à l'échelle européenne ?
Nous, on pense qu'il faut la mener à l'échelle européenne. C'est tout le sens du pacte finance-climat qui est porté par Jean Jouzel et Pierre Larouturou qui est sur notre liste. C'est-à-dire comment on met la création monétaire et la finance au service de grands projets de ce type pour la transformation écologique de notre société.
La bombe pour le climat d'Emmanuel Macron.
Mais il l'a reprise chez Monsieur Larouturou.
Formidable.
Mais c'est très bien, tant mieux. Quand les élections arrivent, soudainement, les bonnes idées sont reprises. Donc ça, c'est formidable. Mais la vérité, c'est que ça fait 2 ans que Monsieur Larouturou essaye de porter cette mesure et que jamais la France ne l'a mise sur la table du Conseil européen. Donc tant mieux, les élections arrivent, ils reprennent la banque du climat. Mais c'est pas seulement...
Que les auditeurs comprennent comment on finance cette banque du climat et comment on articule cette transition écologique
la Banque Centrale Européenne
avec la justice sociale.
Fait de la création monétaire. Donc il faut juste qu'on flèche une partie de la création monétaire de la BCE vers une banque climat. Mais ça ne suffit pas, parce que Emmanuel Macron reprend cette idée de banque climat et quasiment toutes les listes reprennent l'idée de Larouturou et de Jouzel d'une banque climat. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi un budget climat. En plus, une banque, ça fait des prêts. Ça peut faire des prêts à taux zéro, donc ça encourage par exemple la rénovation thermique, mais il faut qu'on arrive à la financer pour que ce soit socialement juste, il faut qu'on arrive à la gratuité pour les foyers modestes de cette rénovation.
Ça passe par une taxation supplémentaire, par exemple une taxe carbone à l'échelle européenne ?
Non, pas forcément une taxe carbone, il y a un projet de taxe carbone, mais au-delà de ça, vous savez, aux États-Unis par exemple, aux États-Unis, qui n'est pas un pays communiste, on est d'accord, enfin, c'est un pays plutôt libéral, non ? Eh bien aux États-Unis, depuis Roosevelt, le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés était de 38%. Donald Trump a fait une forme de Big Bang ultra-libéral sur cette question et il l'a abaissé à 24%. Vous savez combien est le taux moyen en Europe d'imposition sur les bénéfices des sociétés, qui est largement correspond au dividende que se versent les actionnaires, eh bien, ce taux, il est de 19%. Donc, faire un impôt européen...
Donc, on augmente ce taux.
...sur les dividendes qui sont versés aux actionnaires, qui sont en train d'exploser, de 1 à 2%, ce ne sera même pas sensible, mais ça crée un budget. Et ce budget, on le met au service de projets qui permettent de concilier le social et l'écologique. Parce que, fondamentalement, on n'arrivera pas à faire la transformation écologique si on ne montre pas que ça peut être socialement bénéfique. Que ce n'est pas simplement une punition, c'est une grande aventure. C'est ce qui va permettre de réhabiliter l'idée même de puissance publique. Vous savez, les néolibéraux ont gagné dans les têtes. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus en fait à quoi sert une puissance publique, à quoi sert un État. Et là, ce qu'on va montrer, c'est que non seulement ça sert à éviter la catastrophe, qui est, je le répète, la bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique en 2030, ça sert à éviter la catastrophe, mais en plus, ça sert à transformer positivement nos sociétés. Vous vous rendez compte? Si on isole les logements, les gens ne tombent plus malades. Ils économisent entre 500 et 1000 euros par an. Donc, c'est vous donner du pouvoir d'achat et dans le même temps, vous sauvez la planète. C'est l'antithèse de ce qui a été fait sur la taxe sur le diesel, par exemple.
Donc, pour financer tout ça, vous créez un nouvel impôt sur les entreprises, on a bien compris.
Sur les bénéfices des sociétés, et qui ne visera pas les TPE, PME, mais qui visera ces grands groupes qui versent chaque année plus à leurs actionnaires et qui investissent chaque année moins dans la part de ces bénéfices.
Et vous dites qu'il faut une taxe carbone au niveau européen?
Aux frontières de l'Union européenne déjà. Ce qu'il faut, c'est rompre donc avec cette logique du libre-échange. Pendant longtemps, le mot protectionnisme a été un gros mot. Or, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On est le premier marché au monde, le premier marché mondial. Mais on est le seul qui est ouvert aux quatre vents. On est le seul qui n'impose pas des normes à ses frontières. Et donc oui, il faut imposer une forme de protectionnisme vert et solidaire aux frontières de l'Union européenne, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. C'est possible et ça suppose juste une forme de révolution mentale. Jusqu'ici, le libre-échange était tellement une religion qu'en fait, on a même oublié d'être pragmatique. Les Américains, les Chinois, ils se protègent.
Ça suppose une unanimité au sein de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas sur ce sujet.
Ça suppose de se battre. Ça s'appelle la politique.
À la différence de la Chine et des États-Unis.
Ça suppose de se battre. Ça s'appelle faire de la politique, fixer un horizon. Quand vous participez à des élections, si vous faites que des choses où tout le monde, enfin pour lesquelles tout le monde est d'accord, ça sert à rien de participer aux élections parce qu'elles seront de toute façon appliquées. Là, il faut installer un rapport de force. Moi, je veux dire, il y a aujourd'hui en Europe une prise de conscience. On nous explique, par exemple, que la gauche, c'est fini. Eh bien non, c'est pas fini. En Espagne, on nous expliquait que le Parti Socialiste Espagnol était à terre, qu'il ne reviendrait jamais au pouvoir. Aujourd'hui, Pedro Sanchez va gagner les élections. En Belgique, M. Magnette, qui était le héros de la lutte contre le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, est devenu, le socialiste donc, est devenu eh bien, la personnalité politique la plus populaire de
Belgique.
Et dans
beaucoup d'autres pays européens, ce mais ne sont pas les socialistes qui sont au pouvoir ou même qui vont y arriver.
Mais il y a un rapport de force à établir. Il faut d'abord montrer qu'on a un projet, qu'on a une vision, et que cette vision, elle n'est pas celle de M. Macron, elle n'est pas celle de M. Juncker. Et ensuite, les électeurs vont avoir un choix. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces élections européennes...
Nathalie Loiseau, l'ex-ministre, pardon, qui est aujourd'hui tête de liste pour La République En Marche, propose un SMIC européen, notamment pour les pays qui n'en ont pas encore. Vous soutenez cette proposition?
Oui, après, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas fixer ce SMIC à 50% du salaire médian, parce que sinon, c'est quoi? C'est le seuil de pauvreté. Donc, il faut le fixer plus haut. Mais l'idée
60,
d'avoir...
60, bah, comme le dit Benoît Hamon, 75, comme le dit Mélenchon.
Alors après, moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir faire une conférence avec les acteurs sociaux, parce qu'on ne peut pas décider comme ça, et c'est un peu un mensonge d'arriver et de dire au Parlement européen, nous allons faire ça. Non, il faudra créer une... Mais ça sera forcément entre 60 et 70%. Ça ne peut pas être en dessous de ce qui existe déjà en France, par exemple. Donc, il y a la nécessité, effectivement, de lutter contre le dumping social. Mais ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est une machine à faire de la moins-disance sociale. Or, on ne fait pas tout mieux qu'ailleurs en France. Vous savez, nous, ce qu'on veut créer, c'est un fonds justement qui permette l'expérimentation sociale en prenant les exemples de ce qui fonctionne ailleurs. Je prends juste un cas. La Finlande a décidé, avec son programme Logement d'abord, de loger l'ensemble des sans-abri. Et on s'est rendu compte de quoi? De les loger gratuitement. On s'est rendu compte que la Finlande dépensait moins d'argent que la France pour les sans-abri et qu'elle les logeait tous. Comment fait-elle? Eh bien, elle leur offre un logement et on se rend compte qu'elle économise 15 000 euros par an et par sans-abri. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a les frais d'hôpitaux, les frais de justice, les frais d'hébergement d'urgence. Donc en fait, il y a des solutions rationnelles qui sont solidaires, sociales et qui coûtent moins cher. Et ça existe en Europe. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrête de tout tirer vers le bas et qu'on fasse une harmonisation par le haut en prenant des exemples qui sont rationnels. L'Espagne sur la question des femmes et des congés parentaux, l'Allemagne sur la participation des salariés à leur entreprise et à la direction de leur entreprise. Il y a des exemples partout en Europe qui sont absolument extraordinaires et dont on devrait s'inspirer. Mais jusqu'ici, en fait, on prend l'exemple du SMIC le plus bas pour faire baisser les salaires ou du taux d'imposition irlandais pour faire baisser les taux d'imposition dans les autres pays.
Raphaël Glucksmann a parlé d'Europe dans un instant. Je rappelle que vous êtes tête de liste, place publique, Parti Socialiste. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Raphaël Glucksmann, tête de liste, place publique, Parti Socialiste, est l'invité du Grand Rendez-vous. Raphaël Glucksmann, le Royaume-Uni a obtenu un nouveau report jusqu'au 31 octobre pour finaliser un accord avec l'Union européenne, pour enfin peut-être réaliser le Brexit. Résultat, les Britanniques vont voter aux élections européennes, avec le risque de voir élire des eurodéputés brexiteurs qui vont peut-être perturber le fonctionnement de l'Europe. D'abord, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous pensez qu'il valait mieux ça qu'un no deal ?
Bien sûr, mais vous savez, c'est facile de dire no deal, hard Brexit, mais en fait, il y a des implications extrêmement concrètes, non seulement pour les Britanniques,
mais aussi pour
beaucoup de Français. Moi, je pense aux gens qui sont dans le nord de la France, qui sont dans la Manche. Il y a un impact direct. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on regarde ces difficultés incroyables, on se questionne. Et quand on écoute le défilé des candidats nationalistes ou eurosceptiques qui arrivent avec leurs fake news sur l'Union européenne, qu'on se souvienne, qu'on n'ait pas une mémoire zappeuse, qu'on se souvienne de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous savez, les gens qui ont obtenu le Brexit, qui ont gagné ce référendum en mentant et éhontément, aujourd'hui, ils ont tous disparu. Ils se sont carapatés, les Farage, les Johnson. Ils sont plus aux responsabilités. Ils n'assument pas ce qu'ils font. Et donc, cette politique spectacle des nationalistes qui est en train de gagner, des populistes partout en Europe, ça mène au chaos. Et qu'on regarde aussi.
Mais vous dites ça, par exemple, pour l'exemple italien ?
Bien sûr, regardez l'exemple italien. Vous avez quelqu'un, Matteo Salvini, qui nous explique, en gros, je suis pour la souveraineté nationale, l'Europe des nations, je vais rendre aux Italiens leur fierté. Mais ce n'est pas de la souveraineté nationale, ce qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est la route de la soie, ce qu'il vient de faire avec la Chine, c'est-à-dire de vendre les infrastructures stratégiques de l'Italie à un empire, à la Chine. Et finalement, ce destin de souveraineté nationale que nous propose Mme Le Pen ou M. Salvini, c'est quoi ? C'est un destin de laquais des empires chinois, de laquais de l'empire russe, de laquais de Donald Trump. Et à un moment, ça, il faut le dire, il faut l'enregistrer. La seule manière, aujourd'hui, dans ce monde extrêmement dangereux, d'être réellement souverain, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise de son destin, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne. Et donc, moi, je sais, peut-être que c'est contre-intuitif aujourd'hui, puisqu'on est dans le Bruxelles bashing éternel chez tout le monde, mais nous, on va assumer ce destin d'Europe. On va assumer le fait de dire il faut plus d'Europe, plus de souveraineté européenne. On va assumer même le slogan de notre campagne qui est « Envie d'Europe ». C'est contre-intuitif. C'est pas bien dans les sondages. On s'en moque. À un moment, il faut défendre ses convictions. Ce destin que promettent les souverainistes, c'est un destin de laquais, c'est pas un destin de souverain.
Nicolas Barré.
Justement, allons un peu plus loin sur votre vision de l'Europe, de la construction européenne. Au fond, pour vous, qu'est-ce qu'on doit construire ? C'est quoi le but ultime de cette construction ? Est-ce que ça doit être, à la fin, la création, par exemple, d'une fédération ? Est-ce que ça veut dire que les pays vont devoir se rapprocher, que la France et l'Allemagne, par exemple, vont devoir constituer un ensemble plus fort. C'est quoi votre vision sur le but ultime ?
C'est pas seulement la France et l'Allemagne. On doit se rapprocher, bien entendu. Vous savez, l'Europe, c'est le premier marché du monde. On a réussi à créer une monnaie et un marché. C'est bien. Mais il faut que ça devienne une puissance politique. On s'est arrêté dans l'entre-deux. On a un marché et on n'a pas de démocratie qui fonctionne. On a une monnaie et on n'a pas de gouvernement intégré. Donc ce qu'il faut, c'est assumer qu'il faut plus d'Europe, de manière plus démocratique, avec un grand projet social et écologique.
Mais c'est quoi le point d'arrivée ?
Oui, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pour qu'on élise au suffrage universel le président de la Commission et qu'on nomme même un vice-président qui soit en charge justement de cette transformation écologique. Donc on élise un ticket directement par le peuple. D'ailleurs, j'ai moi une candidate pour ce poste de vice-présidente liée à la transformation écologique, c'est Claire Nouvian, avec qui nous avons fondé Place Publique et qui est une combattante de l'écologie, prix Nobel de l'écologie, qui a déjà vaincu les lobbies. Mais il faut qu'il y ait un lien direct entre la volonté générale européenne, les citoyens européens
et le gouvernement. Le proportionnel, qui bien est sûr. Le mode de scrutin le plus représentatif.
Bien sûr. Simplement, moi, je me battrais à Bruxelles pour que le Parlement ait plus de pouvoir. Il représente la volonté générale. Moi, je suis contre le bashing de ce Parlement. Je pense que ce Parlement, eh bien, il est l'émanation d'une volonté générale européenne. Effectivement, élu à la proportionnelle le même jour dans tous les pays, c'est formidable. Mais simplement, ce Parlement, il n'a pas assez de pouvoir. Vous savez, qu'est-ce qui fonde un Parlement dans l'histoire des peuples, hein ? Ça a toujours été la capacité de lever l'impôt.
Lever l'impôt.
Voilà, c'est le sens même des parlements dans notre histoire française, mais britannique ou ailleurs. Le problème, c'est que ce Parlement, par exemple, il n'a pas son mot à dire sur sa capacité de lever l'impôt. Et par ailleurs, il n'a même pas le droit d'initiative législative. C'est-à-dire que c'est la commission qui propose les lois et le Parlement peut s'opposer.
Donc c'est ça qui doit gagner pour...
Mais il faut renforcer le rôle du politique. Du politique. Il faut assumer de faire une Europe politique. Vous savez, aujourd'hui, la France ne pèse rien seule. L'Italie ne pèse rien seule. L'Allemagne ne pèsera rien seule face à la Russie, la Chine ou aux États-Unis. Et face aux multinationales. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'enfin, on transforme ce marché en puissance politique. Mais il faut l'assumer. Ça n'a pas été assumé jusqu'ici. C'est ça l'immense problème de la construction européenne. C'est qu'on l'a laissée dans une forme d'entre-deux. Et donc, elle est jugée responsable de tous les maux. Et en même temps, elle n'est pas capable de nous protéger. Et donc, nous, on va assumer un saut dans la construction européenne. Et ce qui m'étonne, c'est que Mme Loiseau, par exemple, n'assume pas cette construction, n'assume pas cette volonté de faire plus d'Europe. Moi, quand j'étais... au débat.
Pourquoi dites-vous qu'elle
fasciné,
n'assume pas ?
Mais j'étais fasciné. J'étais fasciné. Non, mais je vais vous dire, j'étais fasciné.
Le budget européen, quand on dit, quand on dit de la zone euro, pardon.
Mais quand on dit, dit, bien sûr. Mais nous aussi. Mais quand on dit, il faut plus de solidarité entre les pays européens. Tout le monde autour de la table était d'accord pour dire que la France payait 10 milliards d'excédents de contributions excédentaires au budget européen et que c'était un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, j'assume de le dire, les pays les plus riches de la zone euro doivent contribuer au budget européen. Et il faut, à ces contributions des États européens, assumer de dire qu'il faut des ressources propres pour l'Union européenne. Une taxe aux frontières, ça c'est important. Un impôt sur les bénéfices des sociétés, j'en ai parlé. Il faut que l'Europe ait un budget plus grand. On est tous en train de dire, mais il faut que l'Europe s'occupe du social, il faut que l'Europe s'occupe de l'écologie, il faut qu'on lutte contre les lobbies. Mais personne n'assume de dire, vous savez ce que c'est ? Le budget de l'Union européenne, c'est ridiculement petit. Et quand on dit, oui, l'Europe, c'est un ensemble technocratique peuplé par une foule de fonctionnaires. Mais non, c'est faux. Il y a moins de fonctionnaires européens qu'à la mairie de Paris. Donc à un moment, il faut dire la
en
vérité.
Vous voulez dire qu'il y en a trop à la mairie de Paris ?
Non, pas du tout. Mais ce que j'explique, c'est qu'il y en a, il y a 30 000 fonctionnaires de la Commission européenne pour 30 000 lobbyistes. Comment vous voulez, à Bruxelles, il y a un fonctionnaire pour un lobbyiste, donc un lobbyiste pour un fonctionnaire. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors peut-être que c'est impopulaire de dire qu'on veut plus d'Europe et qu'il faut donner à l'Europe les moyens de s'occuper de ce qu'on lui demande, mais moi j'assume de le faire, il faut être cohérent.
Un autre sujet, la question des migrants. Dans l'actualité, des migrants sont restés bloqués plus de 10 jours sur un navire d'une ONG qui a finalement pu débarquer à Malte après un accord de répartition, comme d'habitude, entre différents pays. La France accueillera donc 20 migrants sur les 64 qui étaient à bord de ce navire. Finalement, vous dites, cette répartition, cela fonctionne et Paris prend sa part.
Vous vous rendez compte de quoi on parle ? 20 personnes. On parle de 20 personnes, il a fallu 10 jours pour s'accorder là-dessus. On traite aujourd'hui les humanitaires comme des pirates. Quand un bateau comme l'Aquarius erre sur les mers et que tout le monde ferme ses ports, mais de quoi parle-t-on ? De quelle Europe on parle ? Donc moi, ce que je dis, c'est que la première chose à faire, c'est de relancer les opérations de sauvetage comme l'opération Mare Nostrum qui avait dû être arrêtée par les Italiens parce qu'il n'y avait pas eu de solidarité européenne.
Mais Raphaël Glucksmann, on relance
à l'échelle européenne, l'Union européenne, les pays européens décident de faire en sorte que la Méditerranée cesse de se transformer en charnier. 20 000 morts dans notre mer, dans la mer qui nous est commune. Et par ailleurs, il faut un régime d'asile européen avec un mécanisme contraignant pour les États d'accueil. Voilà, c'est simple. Pour que ce que l'Allemagne de Mme Merkel
mais
a connu
en 2015. Mais ce à quoi on s'est toujours, on s'est heurté,
en 2016,
Raphaël Glucksmann,
en 2015 et en 2016, l'Allemagne a ouvert ses portes aux réfugiés syriens. Et quand Mme Merkel a demandé de l'aide aux autres pays européens, à part la Suède, tout le monde a regardé ses chaussures. Ce n'est plus possible. Et donc
comment contraindre, par exemple, un pays comme l'Italie d'ouvrir des ports
mais à ses bateaux? Vous savez, si on est très honnête, le problème, ce n'est pas que l'Italie de M. Salvini. Vraiment. L'Italie, pendant longtemps, a été laissée seule.
Comme la Grèce.
Et a géré seule, comme la Grèce, exactement, les pays d'entrée. C'est pour ça qu'il faut supprimer, sortir des accords de Dublin qui font peser tout le poids de l'accueil sur les pays d'entrée. Mais la France, ça a fermé ses ports. C'est l'Espagne de M. Sanchez qui a accueilli l'Aquarius. Et même quand les Corses, quand M. Simeoni a dit qu'il était prêt à ouvrir le port de Bastia, le gouvernement français a dit non. Et ensuite, on a M. Castaner qui, quand il sort d'un rendez-vous avec M. Salvini, eh bien, dit que les ONG qui sauvent notre honneur, qui font ce que nos États devraient faire,
font le jeu des passeurs.
Eh bien, font le jeu des passeurs et fait preuve d'une collusion réelle avec les passeurs. Donc, en fait, on est en train de reprendre le discours de M. Salvini. C'est trop facile de dire M. Salvini, il est méchant, M. Salvini, il est fasciste, M. Salvini, il est nationaliste, quand en fait...
Vous parlez aujourd'hui de collusion entre le gouvernement d'Emmanuel Macron celui de M. Salvini.
Moi, je dis que la collusion réelle, elle est entre M. Castaner et M. Salvini, elle n'est pas entre les ONG et les passeurs. La vérité, c'est qu'il reprend... Bien sûr que je fais une différence, mais il reprend le langage, il reprend les codes, il reprend les thèmes de M. Salvini là-dessus. Moi, ce que je veux dire, il n'y a pas, il faut avoir le courage de le dire, c'est comme sur le budget de l'Europe, mais c'est encore plus important parce qu'on parle de vie humaine, il n'y a pas aujourd'hui en Europe de submersion migratoire. C'est simple, les faits le disent, les chiffres le disent, et on arrête maintenant de jouer avec les peurs. Il s'agit de vie humaine, il s'agit de combien ? De plus de 60% de diminution des arrivées par rapport à 2015-2016. Il n'y a aucune submersion. Il n'y a aucune submersion migratoire. Il faut le répéter partout. Je sais que c'est impopulaire, que c'est ancré dans la tête des gens, mais c'est faux. Les théories du grand remplacement sont fausses. La théorie de la submersion migratoire est fausse. La théorie de l'appel d'air est fausse. Tout ça est un prétexte pour ne pas accueillir. Or, on a les moyens d'organiser l'accueil. L'Allemagne a accueilli 1 million de personnes. Là, c'est un effort massif, d'accord ? 1 million de personnes liées à la guerre en Syrie. Elle a réussi. Tous les éditorialistes en France ont expliqué que Mme Merkel était finie, que c'était une catastrophe politique qui lui tombait dessus.
Ça n'a pas été sans difficulté, ça.
Mais bien sûr que ça n'a pas été sans difficulté. Mais là, en France, on parle de 100 000 personnes. Là, on parlait 1 million de personnes en Allemagne. Je veux dire, ça n'a pas été sans difficulté, mais elle a réussi. Wir schaffen es, elle disait. Nous allons y arriver. Ils y sont arrivés. Et finalement, les gens sont intégrés. Et aujourd'hui, en France, il y a plein de villages et de villes où il y a des migrants, des exilés qui sont arrivés et ils sont parfaitement intégrés. Même les gens qui étaient hostiles, eh bien, finalement, sont heureux aujourd'hui. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, les sondages nous expliquent qu'il faut fermer les portes, il faut fermer nos ports, il faut fermer les portes. Mais la vérité, pourquoi ? Parce que les sondages sont des photographies d'un rapport de force. D'un rapport de force politique et culturelle. Et s'il n'y a aucune parole publique qui assume avec enthousiasme, avec force, l'accueil, évidemment les sondages ne changeront pas. Mais la politique, c'est de se battre pour ses convictions, justement pour convaincre les gens d'ouvrir les ports, pour convaincre les gens qu'il faut plus d'Europe, pour convaincre et faire changer les sondages. Et c'est ça l'idée de la politique que moi je me fais. Et donc, bien sûr, des fois on va dire oui, ben ça c'est impopulaire, ben, c'est pas grave, on assume.
Eh bien, on va continuer à parler de vos convictions et des sondages dans un instant. Raphaël Glucksmann est l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1, CNews et Les Échos. On se retrouve à tout de suite.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Raphaël Glucksmann, tête de liste, Place Publique, Parti Socialiste, est l'invité du grand rendez-vous. Vous parliez il y a un instant, Raphaël Glucksmann, de vos convictions et des sondages. Les sondages, pour l'instant, ils vous donnent, alors, si on fait la moyenne des 7 instituts de sondage, vous êtes à 5,3% des intentions de vote, et vous baissez plutôt, puisque le PS, il y a un mois, était à 5,8%. En gros, on se demande si vous aurez un député européen, si vous serez député européen. C'est chaud, là, quand même, non ?
Non, vous savez, moi, j'ai le souvenir de M. Bellamy au début de sa campagne pour Les Républicains.
Ah, c'est votre modèle ?
Non, c'est pas mon modèle, on n'a vraiment pas la même vision du monde. Mais ce que nous avons en commun, c'est de, en gros, pas venir du sérail et d'arriver en politique. Et je me souviens qu'au début, eh bien, l'ensemble des médias titrait sur la catastrophe Bellamy. Je voyais défiler les, les responsables de droite dans les radios expliquer « ceci n'est pas mon choix, ceci n'est pas mon candidat, ceci n'est pas mon choix ». Et finalement, quoi ? Finalement, aujourd'hui, il remonte et tout le monde est extrêmement satisfait.
Donc, c'est ce qui va vous arriver.
Oui, mais moi, ce que
enfin, c'est ce que vous espérez.
Je suis convaincu. Parce que moi, je suis convaincu qu'en fait, notre position est la bonne. Je suis convaincu qu'en France, il y a encore une gauche. Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que cette union de la social-démocratie et de l'écologie, c'est la ligne qu'il faut. Et je suis convaincu surtout que les gens vont répondre à la question qui est posée. Vous savez, aujourd'hui, les élections européennes ne passionnent pas encore. Mais moi, je crois que les Français, quand ils votent aux élections européennes, ils votent sur un sujet européen. Or, à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on voit ? À l'échelle européenne, on voit que cette mystification macronienne, qui est de dire c'est soit nous, les macronistes, soit Le Pen, cette mystification, eh bien, elle prend fin dès qu'on regarde le sujet européen. Il n'y a pas de nouveau monde en Europe. Au Parlement européen, ce qui compte, c'est quoi ? C'est le rapport de force entre la gauche, incarnée par les sociaux-démocrates, et la droite incarnée par le PPE.
Mais il n'y a pas non plus de nouvelle gauche, celle que vous appeliez de vos voeux en disant il va y avoir une dynamique, un rassemblement. Aujourd'hui, tout le monde reste dans son couloir.
Et je le regrette. Moi, donc, il ne se passe rien. Moi, j'ai œuvré pour ce rassemblement. Et ce n'est pas fini. La porte, elle reste ouverte.
Jusqu'au 22 avril.
Convaincre Benoît Hamon, par exemple, vous rejoindre.
Je pense qu'effectivement, on peut encore faire ce rassemblement. Moi, je suis un fou du rassemblement.
Votre liste n'est pas figée.
Mais bien sûr, on a toujours dit, notre liste, elle est ouverte. À partir du moment où on est d'accord sur le fond. Vous savez, prenons l'exemple de la France Insoumise. La France Insoumise, c'est logique qu'il y ait une liste France Insoumise. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même vision de l'Europe. Parce qu'on n'est pas, nous, pour sortir des traités de manière unilatérale.
Mais quelle est la Nombrie qui n'est pas une professionnelle en politique et qui démarre d'ailleurs dans cette vie politique, dans cette campagne.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je me souviens des pics des médias aussi à son début en expliquant ça ne marchera jamais, la greffe ne prend pas. Et aujourd'hui, finalement, on s'est habitué à sa musique et on trouve qu'elle est combative. Eh bien, ce que je dis, moi, c'est qu'on a deux visions politiques différentes avec la France Insoumise. Donc c'est logique qu'il y ait une liste France Insoumise. Quand on partage les mêmes principes, eh bien, la moindre des choses.
Comme avec Benoît Hamon.
Bien sûr. Ça serait qu'on s'unisse. Et je vais vous dire, on répète quoi ? On répète, le péril est immense. Il y a un risque nationaliste, il y a un risque d'explosion sociale. 2030, c'est la bascule dans l'irréversibilité climatique. Mais alors, si on dit ça, il faut s'unir, il faut se rassembler, il faut faire une offre commune. Vous avez d'un côté une offre nationaliste qui est extrêmement puissante et cohérente, incarnée par M. Bardella et Mme Le Pen. De l'autre côté, une offre libérale de gouvernement, la droite de gouvernement, hein, ça, c'est comme ça que ça s'appelle, même si on cherche à le masquer, qui est puissante, cohérente, c'est la candidature de Mme Loiseau et de la liste LaREM. Ce qu'il faut faire émerger dans le débat public français, c'est une alternative de gauche et écologiste au libéralisme et au nationalisme. Et c'est là où le bât blesse. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est la dynamique que nous essayons de créer. Et moi, je suis convaincu que ça va fonctionner parce que c'est l'attente des citoyennes et des citoyens. Partout, les électeurs des Verts, les électeurs de Génération, les électeurs du Parti Socialiste, les sympathisants de Place Publique, ils disent tous la même chose. Ils veulent l'émergence de cette force. Et je pense que ce serait fou, eh bien, de ne pas commencer maintenant. On a lancé une dynamique, et cette dynamique, elle va prendre. Parce qu'on a la bonne position. On répond à une attente dans la société, une vraie attente. Les gens de gauche, ils n'ont pas disparu du jour au lendemain. Tous ces sociaux-démocrates...
Mais ils sont éparpillés.
Et tous ces sociaux-démocrates qui ont fait le choix de voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils voulaient éviter Fillon-Le Pen, eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas disparu dans la nature et ils ont raison d'être déçus par la politique qui est menée depuis 2 ans. Et donc, il faut leur parler, il faut leur montrer que quelque chose peut se produire à gauche, comme ça se produit en Belgique, comme ça se produit en Espagne, que la France, en fait, n'est pas condamnée à ce kidnapping du « c'est Marine Le Pen ou moi ». Parce que dans ce cas-là, sinon, on peut supprimer les élections, on peut supprimer la démocratie et faire voter les gens chez Hanouna par un clic. On maintient M. Macron au pouvoir parce qu'on n'a pas envie d'avoir Mme Le Pen.
Nicolas Barré.
Sur un autre sujet, cette semaine a été adoptée la loi Pacte, loi qui contient un projet de privatisation, notamment d'Aéroports de Paris, d'ADP. Et puis alors là, on a vu se produire quelque chose d'assez incongru, enfin en tout cas d'assez rare, puisque des députés, alors insoumis, communistes, socialistes, républicains, ont décidé de s'allier pour s'opposer à ce projet et demander un référendum. Donc droite et gauche alliés contre une privatisation, ça on n'avait pas vu ça encore.
Mais peut-être parce que la situation le demandait. Et moi je félicite M. Vallaud et les députés socialistes d'avoir initié cette campagne pour un référendum sur la question de la privatisation d'Aéroports de Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de vendre les entreprises et les infrastructures stratégiques de nos pays. et que c'est une vision extrêmement court-termiste pour combler un trou dans un budget. Mais c'est ce qui se passe partout en Europe. Or, il faut revenir là-dessus. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est
la création proposées, de... les garanties notamment sur le contrôle aux frontières, sur le foncier.
Oui, mais c'est la même logique en fait que M. Salvini qui nous explique quand il vend le port de Gênes qu'il y a des garanties qui sont appliquées, mais finalement on prive l'État, un, d'un revenu dans le cas d'Aéroports de Paris, et deux, d'une capacité de maîtrise stratégique extrêmement importante. Mais
ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un cahier des charges qui est prévu justement pour éviter ce que vous dites.
On prévu un fonds européen qui vise justement, jusqu'ici l'Europe, la politique menée par l'Europe, la politique d'austérité budgétaire a conduit à quoi ? Au démantèlement progressif des services publics. Nous, ce qu'on veut, c'est un fonds qui permette l'inverse. C'est-à-dire que sur les entreprises stratégiques, sur les infrastructures stratégiques, eh bien, il y a un fonds européen qui permette justement d'éviter la cession permanente de ces entreprises.
Mais ça ne ressemble pas à un coup politique, la droite et la gauche, depuis Lionel Jospin, Dominique de Villepin, François Hollande.
J'ai entendu Monsieur le maire dire...
Je ne vous en rends pas responsable particulièrement, mais comment vous expliquer...
Mais attendez, quand on privatise des autoroutes et qu'on se rend compte que c'est une catastrophe, pourquoi est-ce qu'on continuerait la même politique ?
Il y a une forme d'entêtement
dans une politique dont on voit qu'elle ne fonctionne pas. Et quand on entend M. le maire dire « c'est un attelage rocambolesque qui fait le jeu du populisme », encore une fois, on retombe dans le même chantage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une opposition à M. Macron, on est accusé de faire le jeu des populistes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, la démocratie. Il faut une opposition, il faut une alternative, il faut une voix dissonante dans ce pays, sans être taxé immédiatement de faire le jeu de monsieur Bardella ou de Madame Le Pen ou des populistes. Non, il faut un débat démocratique. Donc là, pour une fois, il y a une entreprise, une initiative de l'opposition qui fonctionne, qui rassemble assez de députés et de sénateurs pour passer ce cap-là et donner la parole aux citoyens. Maintenant, il faut que les citoyens signent cet appel. Et c'est sain pour la démocratie française. C'est sain pour la démocratie française. Moi, je vois le kidnapping qui est en train d'avoir lieu depuis 2 ans. On explique aux gens, eh bien, vous n'avez plus le choix. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va se passer la même chose qu'en Italie. L'ensemble des élites italiennes, qu'elles soient de droite ou de gauche, quand elles étaient dans le cercle de la raison, avaient rallié M. Renzi. Sur le thème, il n'y a pas d'alternative possible à la politique de M. Renzi, il n'y a pas d'alternative possible à la personnalité de M. Renzi. C'était exactement comme pour Macron aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a eu en Italie ? On a eu M. Salvini et la Ligue. Et on a eu M. Di Maio et le mouvement 5 étoiles. On a eu le chaos qu'on promettait.
Donc il faut s'opposer pour ouvrir le champ des possibles.
Et il faut arrêter de penser que s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, c'est nécessairement faire le jeu des populistes. Non, il y a d'autres voies possibles. Et c'est ça qu'il faut imprimer dans la tête des gens. Parce que sinon... on va vraiment avoir le scénario à l'italienne.
Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.